Bonjour et bienvenue dans Product Hunt Daily, le podcast de Brie. Je suis Claire Martin et aujourd'hui je suis avec Nicolas Moreau. Nicolas, qu'est-ce qui nous attend ce matin ?
Un programme dense, Claire, on parle d'un agent de vente proactif qui s'annonce comme le lancement le plus documenté du jour, d'une application qui met l'intelligence au bout du curseur et d'un outil macOS pour une frustration toute simple.
Et ce n'est pas tout. On évoquera aussi un nouveau modèle de langage taillé pour le codage complexe, un proxy local qui note chaque appel à un modèle d'IA, et deux applications européennes, l'une de budget, l'autre de prise de rendez-vous.
Beaucoup de choses à couvrir, c'est parti.
Commençons par le lancement le plus documenté de ce tour d'horizon, SalesCloser.ai. C'est un agent de vente dit proactif, conçu selon son directeur de la mise sur le marché pour réserver, se présenter et animer les démos à la place d'un SDR, c'est-à-dire d'un commercial qui qualifie les prospects en amont.
Donc on ne parle pas d'un outil qui écrit des emails ou des messages LinkedIn. L'agent prend réellement l'appel, c'est ça l'idée forte.
Exactement. D'après la description du produit, l'agent préqualifie les acheteurs, écarte ce qu'on appelle les tier kickers, ceux qui font perdre du temps sans jamais acheter, gère la prise de rendez-vous, puis intervient en appel par téléphone, Zoom ou navigateur pour mener une démo en direct, en manipulant l'écran comme le ferait un humain et en traitant les objections dans 32 langues.
Et après l'appel, il met à jour le CRM, planifie le suivi et fait entrer le bon commercial humain au bon moment. C'est un flux de bout en bout, pas juste une première prise de contact.
Tout à fait. Le problème que le directeur de la mise sur le marché divisé est explicite. Les équipes commerciales brûlent leur budget avec des SDR qui passent la moitié de leur temps sur une prospection qui convertit peu à cause des limites de LinkedIn, des filtres anti-spam de Gmail et de faibles taux de réponse.
Et ce que l'agent promet de changer, c'est précisément d'enlever cette dépendance aux canaux sortants de plus en plus restreints et coûteux. On envoie plus massivement des messages dans l'espoir d'une réponse.
Oui, les changements revendiqués, c'est une qualification et une qualité de démo constante, quel que soit l'effectif ou la durée de formation des équipes. Les données d'appel remontent dans la pile CRM existante, avec plus de 200 intégrations. Et le volume de conversation peut augmenter sans gonfler les plans de rémunération, puisque ce n'est pas un humain qui a animé toutes ces démos.
C'est l'arbitrage clé pour une équipe GTM. Au lieu de convertir un budget en embauche de SDR pour augmenter le volume, on convertit un budget en abonnement, et le volume devient quasi illimité à coût marginal faible. Le chiffre clé reste celui-ci, la moitié du temps d'un SDR part en prospection à faible conversion. C'est exactement ce créneau que l'agent vient occuper.
Deuxième lancement de la sélection, Atin, une application présentée sur Product Hunt qui amène l'intelligence directement dans les applications déjà ouvertes pour éviter le détour par un autre onglet.
Le fondateur, Rohit, explique un constat simple. La plupart des gens commencent leur travail là où se trouve le curseur. Pour utiliser l'intelligence artificielle, il faut encore quitter son travail, ouvrir un modèle, expliquer le contexte, copier, coller. Autant de frictions qu'on aimerait supprimer.
Lui-même raconte avoir commencé par chercher de petits modèles de langage, puis avoir construit une sorte de harnais qui porte le contexte jusqu'à l'intelligence et ramène le résultat au curseur. Et le projet est bootstrapped, indépendant, ce qui a son importance pour ceux qui se méfient des gros éditeurs.
Quatre fonctions sont proposées au total. Il y a d'abord l'assistance intégrée, qui réécrit le texte, sélectionné directement sur place. Ensuite, la dictée en temps réel, qui transforme la parole en écriture finie au curseur.
Puis une fonction qui répond à des questions sur ce qui est à l'écran, utile quand on fait face à une interface ou à un document qu'on ne comprend pas. Et enfin, un tableau noir, qui transforme une question en explication visuelle que l'on peut explorer.
Le point clé, c'est qu'il n'y a pas d'intégration à installer, ni de nouvelles fenêtres à ouvrir. Le site le formule ainsi. Si le champ accepte du texte, il accepte Atin.
Et on cite des applications comme Gmail, Slack, Notion, Docs, WhatsApp, LinkedIn, Figma ou Obsidian, mais avec une précision importante. Ce sont des exemples, pas une liste d'applications supportées. Cette liste n'existe pas, puisque la promesse, c'est précisément de fonctionner partout où un champ accepte du texte.
Côté paiement et modèle, plusieurs façons de fonctionner. On peut payer avec des crédits Atin, apporter la clé de son propre fournisseur, ou utiliser un modèle local supporté. Chaque nouveau compte démarre avec 500 crédits de lancement.
Et le site décrit des profils personnels ou business, avec nom, choix d'intelligence, contexte et mémoire, des spécialistes installés et des permissions déterminées. L'arbitrage se joue donc entre la friction du copier-coller et la promesse d'avoir l'intelligence au plus près du travail réel de l'utilisateur. Dernier point de ce tour d'horizon, Clamshell, une application pour macOS qui vise une frustration très précise. Fermer son MacBook interrompait les builds, les téléchargements, les serveurs locaux ou encore les agents de codage. Clamshell permet au Mac de continuer à travailler couvercle fermé.
Le créateur explique avoir voulu un interrupteur simple, on arme clamshell, on ferme le couvercle, l'écran interne s'éteint et le Mac continue son travail. L'activation se fait depuis la barre de menu, par raccourci clavier ou simplement en maintenant la touche option à la fermeture.
Et le point technique appréciable, selon la page produit, aucun privilège administrateur, ni extension noyau, ni pilote, ni helper privilégié n'est nécessaire. C'est léger et sans risque pour la sécurité du système.
Concrètement, l'application maintient le Mac éveillé sur secteur comme sur batterie, réapplique automatiquement le réglage à chaque branchement ou débranchement, et peut couper le fonctionnement en dessous d'un niveau de batterie choisi pour ne pas vider sa machine. À l'ouverture du couvercle, le réveil est immédiat.
Et point de tranquillité, le réglage n'est jamais conservé. Au redémarrage, le Mac retrouve son comportement normal. Par ailleurs, contrairement au mode clamshell natif de macOS, aucun écran externe, aucun dock, aucun leurre HDMI n'est requis. Il suffit de fermer le couvercle.
Compatibilité annoncée, les MacBook à puce Apple Silicon sous macOS 14 ou ultérieur. Précision intéressante, le geste par touche option nécessite un capteur d'angle de couvercle présent sur les MacBook Air M2 à partir de 2022 et les MacBook Pro 14 ou 16 pouces à partir de 2021.
Côté prix, essai gratuit de 7 jours sans carte bancaire, puis achat unique de 9,99$, une licence par Mac avec garantie de remboursement de 14 jours. Et le créateur apporte un élément de preuve, Setapp lui aurait donné un reality check avant le lancement, puisque plus de 500 personnes utilisaient déjà Clamshell, avec un seul bug signalé, corrigé depuis.
À prendre bien sûr comme des affirmations du développeur, mais le signal reste parlant. Un outil qui résout un vrai point de friction. Laisser un build tourner la nuit, garder un serveur local actif, lancer un agent long sans garder l'écran allumé, et qui le fait sans demander de privilège système. C'est un bel exemple de produit de niche bien pensé, et ça clôt ce tour d'horizon.
Le modèle qui fait parler de lui en ce moment, c'est GLM 5.3 de Z.ai, et ce qui attire l'attention, c'est clairement la cible, le codage complexe et les tâches de long horizon. D'après la présentation du lancement, donc des affirmations du fabricant et pas des résultats vérifiés indépendamment, le modèle atteindrait le niveau que l'on appelle SOTA Open Source en codage agentique grâce à un post-entraînement massif. Concrètement, cela voudrait dire qu'il donnerait les meilleurs résultats parmi les modèles open source sur ce type de tâches, avec en plus des capacités émergentes en découverte de vulnérabilités et en cyberdéfense.
Et justement, il y a un contexte cybersécurité intéressant qui circule dans la communauté. Un commentaire attribué à un membre fait le rapprochement avec un épisode du mois dernier. GLM 5.2 aurait été utilisé en local chez Hugging Face pour enquêter sur l'intrusion d'un agent autonome dans son infrastructure. Pourquoi en local ? Parce que, selon ce même commentaire, des modèles frontaliers hébergés s'étaient heurtés à des restrictions de cybersécurité. Et là où c'est notable, c'est que GLM 5.3 conserverait exactement la même base que GLM 5.2, Z. Et aurait simplement continué à passer à l'échelle la pile de post-entraînement.
Donc on garderait la base et on enchaînerait davantage de post-entraînement. Les performances annoncées sur le benchmark interne de code sont frappantes. Toujours selon ce commentaire de communauté, en mode high effort, GLM 5.3 battrait Opus 4 août, tout en utilisant moins de la moitié des jetons de sortie. En cybersécurité, le modèle obtiendrait un score de 84,5 sur le benchmark CyberGym et commencerait à raisonner sur des chaînes d'exploitation complètes. Reste que tout cela repose sur des dires du fabricant et de la communauté, sans vérification indépendante.
Et il y a un élément qui donne une idée du périmètre de leur suivi en cybersécurité. Le registre de divulgation de Z.ai suivrait actuellement 1097 résultats de gravité critique ou élevée répartis sur 269 projets open source. C'est le genre de chiffre qu'on retient surtout pour la dimension du travail de recherche de vulnérabilité derrière. Côté disponibilité, GLM 5.3 se teste via GLM Coding Plan et Zcode. Et pour ceux qui attendent les poids ouverts, ils sont annoncés pour dans 2 semaines, après les dernières évaluations de sécurité et un durcissement du modèle.
Enfin, un deuxième commentaire apporte un contrepoids utile, le fameux chiffre de « moins de la moitié des jetons » mérite d'être pris avec précaution. Bref, à retenir, des ambitions fortes en codage agentique et en sécurité, des performances annoncées très flatteuses, mais un modèle qu'on pourra vraiment jauger quand les poids seront publics et les évaluations indépendantes. Passons à un outil qui, lui, s'attaque à un tout autre problème, la transparence de ce qu'on paye vraiment pour des appels d'IA.
Il s'appelle Inferoc Bench et c'est un proxy local qui se place entre votre application et vos appels d'API au format OpenAI, Anthropic, Gemini ou OpenRouter. À chaque appel, il capte la consommation de tokens, les échecs et les nouvelles tentatives. Puis il génère un reçu indépendant, ce qui vous a été facturé et le montant du surpaiement éventuel.
Et l'histoire derrière cet outil, c'est presque un refrain connu. L'équipe dit avoir lancé le projet parce qu'elle payait pour des réponses d'IA mortes en plein milieu, sans que personne ne puisse dire où allait l'argent. Les fournisseurs donnent des totaux globaux, mais pas un reçu détaillé appel par appel. L'installation est pensée pour être simple. Vous pointez votre SDK existant vers le proxy en modifiant deux réglages, la clé API et l'URL de base. Point important pour la confidentialité, votre clé de fournisseur reste locale, elle n'est jamais envoyée à leur serveur.
Le lancement se fait en une minute environ via NPX InfraRockbench, et c'est de l'open source sous licence FSL 1.1 Apache 2.0, convertible en Apache 2.0 après 2 ans. Et ce que l'outil prétend repérer, ça parle à toute personne qui a déjà géré une facture d'API. Des réponses coupées en plein flux, quand même facturées, des réponses vides, qui génèrent quand même des tokens facturés, des compteurs de tokens, qui ne correspondent pas à la sortie visible, des nouvelles tentatives, qui doublent silencieusement une charge, et des remises de cash, qui manquent à l'appel sur la facture.
Chaque exécution produit un reçu avec la dépense observée, une perte d'argent bornée par la facture, le temps perdu, plus une ligne séparée appelée Invoice Check Exposure, volontairement exclue du total de pertes pour garder une revendication défendable. C'est un choix honnête, ils ne mélangent pas ce qu'ils peuvent prouver et ce qui relève de l'exposition.
Et du côté de la communauté, les premiers retours attribués dans la discussion racontent qu'un utilisateur se serait fait brûler précisément par ce genre de cas, un paiement pour des réponses mortes sans explication. En résumé, InfraRockbench ne résout pas le problème des prix des fournisseurs, mais il éclaire enfin la facture dans le détail, appel par appel. Et on enchaîne avec un domaine complètement différent, la gestion des dépenses personnelles en Europe.
Talvo, présenté sur Product Hunt, est une application européenne de suivi des dépenses et de budget. Elle se connecte à plus de 2500 banques européennes via l'Open Banking, le cadre PSD2, catégorise automatiquement les transactions et suit budget et valeur nette. Le site met en avant l'hébergement dans l'Union européenne et un statut affirmé RGPD natif, avec un essai gratuit de 7 jours et une annulation possible à tout moment.
Le fondateur Philippe explique son point de départ. Éviter les tableurs manuels et les applis bancaires qu'il juge datés, sachant que les outils existants ne couvraient pas bien les banques européennes ou manquaient d'applications web. Son approche tient en 3 piliers. Zéro friction dans la connexion bancaire, des analytics intelligents et la vie privée alliée à la rapidité.
Le site détaille pas mal de fonctions. Catégorisation des commerçants européens, règles qui apprennent de vos corrections, reconnaissance des virements internes pour qu'ils ne comptent pas comme dépenses, budget suggéré à partir des moyennes des 3 derniers mois, report des restes d'un mois sur l'autre, rebalancement entre catégories, exclusion de transactions. Il y a aussi une intelligence marchand qui suit la fréquence et la dépense moyenne par commerçant, une carte de chaleur quotidienne, une recherche globale et des thèmes clairs, sombres et systèmes.
Mais la discussion communautaire apporte 2 limites concrètes à garder en tête. Un premier commentaire relève que certains comptes d'épargne et de courtage restent hors du monde PSD2 et n'ont toujours pas de connecteur propre. La même personne pose 2 questions directes. Est-ce que le consentement PSD2 expire réellement tous les 90 jours? Et est-ce que la promesse zéro friction tient vraiment? Autrement dit, à quoi ressemble concrètement l'expérience de liaison bancaire au quotidien quand l'open banking impose ses réautorisations périodiques?
C'est un bon rappel, la catégorisation intelligente et les budgets ont de l'attrait. Mais l'open banking a ses limites structurelles, les comptes hors périmètre et les consentements qui expirent. Et le zéro friction, promis, devra se juger sur la durée une fois le connecteur en place. Voilà pour ces 3 annonces. Un modèle de codage aux ambitions cybersécurité, un outil pour auditer ses factures d'API et une app de budget pensée pour l'Europe. On poursuit. Alors Takahiro Akeuchi n'est pas simplement un développeur qui a eu une idée. Il a vécu ce problème de chaque côté de la table. Quand il était directeur technique, il coordonnait des entretiens de recrutement. Et comme coach, il devait organiser des réunions avec des personnes extérieures à son organisation. Dans les 2 cas, les fonctions natives des calendriers se sont révélées trop limitées, tandis que les grandes suites de planification étaient difficiles à justifier sur le prix. Chronox est sa réponse, un espace de travail unique qui réunit la planification de rendez-vous et la synchronisation de calendriers.
Concrètement, comment ça fonctionne? L'outil se connecte à vos calendriers Google et Outlook, vérifie votre disponibilité, puis transforme les créneaux libres en pages de réservation. Vos invités ne voient que ces créneaux, ils n'ont pas accès aux détails de votre agenda. Et pour vous, il synchronise les événements entre calendriers professionnels, personnels et de projet, dans une vue unique baptisée Integrated Calendar, afin d'éviter les doubles réservations.
Et c'est là que la proposition de valeur prend tout son sens. Plutôt que de jongler entre plusieurs agendas et de se demander si on a réservé 2 fois le même créneau, tout est consolidé au même endroit. Le résultat est donc visible immédiatement pour quelqu'un qui vit sur plusieurs calendriers à la fois.
Ce qui retient aussi l'attention, c'est l'angle technique. Ikoshi revendique plus de 10 ans d'expérience comme développeur full stack, et il affirme avoir intégré un support multilingue, dont le japonais, dès le départ. Surtout, il présente Chronoc comme construit en mode AI native. Il a utilisé des agents de codage comme Codex et Claude Code pendant le développement. Mais attention, il insiste sur le fait que cela ne signifie pas déléguer son jugement d'ingénierie.
Et il y a une précision importante qui ressort de la discussion de lancement. L'outil n'est pas propulsé par l'IA dans son fonctionnement réel. La synchronisation repose sur des règles déterministes, pas sur de l'intelligence artificielle. C'est une distinction fine. L'IA a servi à construire l'outil, mais ce ne sont pas des modèles qui gèrent vos réservations au quotidien.
Étant basé à Tokyo, il exploite d'ailleurs la logique multilingue, puisque le japonais est intégré dès le départ. Pour l'offre, il propose un plan gratuit, sans carte de crédit, ce qui abaisse la barrière pour qui veut tester l'outil avant de s'engager. La question, pour un utilisateur, c'est de voir si la synthèse de ces deux fonctions, rapprocher la planification et la lecture consolidée des agendas, suffit à le différencier face aux solutions plus lourdes du marché.
Voilà pour ce tour d'horizon des lancements du jour. On retient surtout SalesCloser.ai, l'agent de vente proactif le plus documenté de la sélection, et les avancées de GLM 5.3 sur des tâches de codage complexes et de long horizon.
Sans oublier Atin qui apporte l'intelligence au curseur, Clamshell qui s'attaque à la frustration du MacBook qui se met en veille, et du côté pratique, Talvo pour suivre ses dépenses, et Chronoc pour réunir planification et synchronisation. C'était la sélection du jour, à très vite.